Gérard de Nerval, 18 mars 1845, Voyage en Orient, Les Pyramides. 1. L'Ascension. Avant de partir, j'avais résolu de visiter les pyramides et j'allais revoir le consul général pour lui demander des avis sur cette excursion. Il voulut absolument faire encore cette promenade avec moi et nous nous dirigeâmes vers le vieux Caire. Il me parut triste pendant le chemin et toussait beaucoup d'une toux sèche lorsque nous traversâmes la plaine de Carafé. Je le savais malade depuis longtemps et il m'avait dit lui-même qu'il voulait du moins voir les pyramides avant de mourir. Je croyais qu'il s'exagérait, sa position. Mais lorsque nous fûmes arrivés au bord du Nil, il me dit « Je me sens déjà fatigué. Je préfère rester ici. Prenez la canche que j'ai fait préparer. Je vous suivrai des yeux et je croirai être avec vous. Je vous prie seulement de compter le nombre exact des marches de la Grande Pyramide, sur lequel les savants sont en désaccord, et si vous allez jusqu'aux autres pyramides de Saqqara, je vous serai obligé de me rapporter une momie d'ibis. Je voudrais comparer l'ancien ibis égyptien avec cette race dégénérée des courlis que l'on rencontre encore sur les rives du Nil. » Je dus alors m'embarquer seul à la pointe de l'île de Roda, pensant avec tristesse à cette confiance des malades qui peuvent rêver à des collections de momies sur le bord de leur propre tombe. La branche du Nil entre Roda et Gizeh a une telle largeur qu'il faut une demi-heure environ pour la passer. Quand on a traversé Gizeh, sans trop s'occuper de son école de cavalerie et de ses fours à poulet, sans analyser ses décombres, dont les gros murs sont construits par un art particulier avec des vases de terre superposés et pris dans la maçonnerie, bâtisses plus légères et plus aérées que solides, on a encore devant soi deux lieues de plaines cultivées à parcourir avant d'atteindre les plateaux stériles où sont posées les grandes pyramides sur la lisière du désert de Libye. Plus on approche, plus ces colosses diminuent. C'est un effet de perspective qui tient sans doute à ce que leur largeur égale leur révélation. Pourtant, lorsqu'on arrive au pied, dans l'ombre même de ces montagnes faites de mains d'hommes, on admire et l'on s'épouvante. Ce qu'il faut gravir pour atteindre au faîte de la première pyramide, c'est un escalier dont chaque marche a environ 1 mètre de haut. Une tribu d'Arabes s'est chargée de protéger les voyageurs et de les guider dans leur ascension sur la principale pyramide. Dès que ces gens aperçoivent un curieux qui s'achemine vers leur domaine, ils accourent à sa rencontre, au grand galop de leurs chevaux, faisant une fantasia toute pacifique et tirant en l'air des coups de pistolet pour indiquer qu'ils sont à son service, tout prêts à le défendre contre les attaques de certains bédouins pillards qui pourraient, par hasard, se présenter. Aujourd'hui, cette supposition fait sourire les voyageurs, rassurés d'avance à cet égard. Mais, au siècle dernier, ils se trouvaient réellement mis à contribution par une bande de faux brigands qui, après les avoir effrayés et dépouillés, rendaient les armes à la tribu protectrice, laquelle touchait ensuite une forte récompense pour les périls et les blessures d'un simulacre de combat. On m'a donné 4 hommes pour me guider et me soutenir pendant mon ascension. Je ne comprenais pas trop d'abord comment il était possible de gravir les marches dont la première seule m'arrivait à la hauteur de la poitrine. Mais, en un clin d'œil, 2 des Arabes s'étaient élancés sur cette assise gigantesque et m'avaient saisi chacun un bras. Les 2 autres me poussaient sous les épaules et tous les 4, à chaque mouvement de cette manœuvre, chantaient à l'unisson le verset arabe terminé par ce refrain antique « Eleison ». Je comptais ainsi 207 marches et il ne fallut guère plus d'un quart d'heure pour atteindre la plateforme. Si l'on s'arrête un instant pour reprendre haleine, on voit venir devant soi des petites filles à peine couvertes d'une chemise de toile bleue qui, de la marche supérieure à celle que vous gravissez, tendent à la hauteur de votre bouche des gargoulettes de terre de Thèbes dont l'eau glacée vous rafraîchit pour un instant. Rien n'est plus fantasque que ces jeunes bédouines grimpant comme des singes avec leurs petits pieds nus qui connaissent toutes les anfractuosités des énormes pierres superposées. Arrivés à la plateforme, on leur donne un bakchich, on les embrasse, puis l'on se sent soulevé par les bras des 4 Arabes qui vous portent en triomphe aux 4 points de l'horizon. La surface de cette pyramide est de 100 mètres carrés environ. Des blocs irréguliers indiquent qu'elle ne s'est formée que par la destruction d'une pointe, semblable sans doute à celle de la seconde pyramide qui s'est conservée intacte et que l'on admire à peu de distance avec son revêtement de granit. Les trois pyramides de Khéops, de Khéphren et de Mycérinus étaient également parées de cette enveloppe rougeâtre qu'on voyait encore au temps d'Hérodote. Elles ont été dégarnies peu à peu lorsqu'on a eu besoin au Caire de construire les palais des califes et des soudans. La vue est fort belle, comme on peut le penser, du haut de cette plateforme. Le Nil s'étend à l'Orient depuis la pointe du delta jusqu'au-delà de Saqqara, où l'on distingue 11 pyramides plus petites que celles de Gizeh. À l'Occident, la chaîne des montagnes libyques se développe en marquant les ondulations d'un horizon poudreux. La forêt de palmiers, qui occupe la place de l'ancienne Memphis, s'étend du côté du Midi comme une ombre verdâtre. Le Caire, adossé à la chaîne aride du Mokattam, élève ses dômes et ses minarets à l'entrée du désert de Syrie. Tout cela est trop connu pour prêter longtemps à la description. Mais en faisant trêve à l'admiration et en parcourant des yeux les pierres de la plateforme, on y trouve de quoi compenser les excès de l'enthousiasme. Tous les Anglais qui ont risqué cette ascension ont naturellement inscrit leur nom sur les pierres. Des spéculateurs ont eu l'idée de donner leur adresse au public et un marchand de cirage de Piccadilly a même fait graver avec soin sur un bloc entier les mérites de sa découverte garantie par l'Improved Patent de London. Il est inutile de dire qu'on rencontre là le crédit voleur, si passé de mode aujourd'hui, la charge de bouginier et d'autres excentricités transplantées par nos artistes voyageurs comme un contraste à la monotonie des grands souvenirs. 2. La plateforme. J'ai peur de devoir admettre que Napoléon lui-même n'a vu les pyramides que de la plaine. Il n'aurait pas, certes, compromis sa dignité jusqu'à se laisser enlever dans les bras de quatre Arabes, comme un simple ballot qui passe de main en main, et il se sera borné à répondre d'en bas par un salut aux 40 siècles qui, d'après son calcul, le contemplaient à la tête de notre glorieuse armée. Après avoir parcouru des yeux tout le panorama environnant et lu attentivement ces inscriptions modernes qui prépareront des tortures aux savants de l'avenir, je me préparais à redescendre lorsqu'un monsieur blond, d'une belle taille, haut en couleur et parfaitement ganté, franchit, comme je l'avais fait peu de temps avant lui, la dernière marche du quadruple escalier et m'adressa un salut fort compassé que je méritais en qualité de premier occupant. Je le pris pour un gentleman anglais. Quant à lui, il me reconnut pour français tout de suite. Je me repentis aussitôt de l'avoir jugé légèrement. Un anglais ne m'aurait pas salué, attendu qu'il ne se trouvait sur la plateforme de la pyramide de Khéops, personne qui pût nous présenter l'un à l'autre. « Monsieur, me dit l'inconnu avec un accent légèrement germanique, je suis heureux de trouver ici quelqu'un de civilisé. » Je suis simplement un officier aux gardes de S.M. le roi de Prusse. J'ai obtenu un congé pour aller rejoindre l'expédition de M. Lepsius. Et comme elle a passé ici depuis quelques semaines, je suis obligé de me mettre au courant en visitant ce qu'elle a dû voir. Ayant terminé ce discours, il me remit sa carte en m'invitant à l'aller voir si jamais je passais à Potsdam. Mais, ajouta-t-il, voyant que je me préparais à redescendre, vous savez que l'usage est de faire ici une collation. Ces braves gens qui nous entourent s'attendent à partager nos modestes provisions et, si vous avez appétit, je vous offrirai votre part d'un pâté dont un de mes Arabes s'est chargé. En voyage, on fait vite connaissance, et en Égypte surtout. Au sommet de la Grande Pyramide, tout Européen devient pour un autre un Franc, c'est-à-dire un compatriote. La carte géographique de notre petite Europe perd de si loin ses nuances tranchées. Je fais toujours une exception pour les Anglais qui séjournent dans une île à part. La conversation du Prussien me plut beaucoup pendant le repas. Il avait sur lui des lettres donnant les nouvelles les plus fraîches de l'expédition de M. Lepsius, qui, dans ce moment-là, explorer les environs du lac Méris et les cités souterraines de l'ancien labyrinthe. Les savants berlinois avaient découvert des villes entières cachées sous les sables et bâties de briques. Des Pompéi et des Herculanum souterraines qui n'avaient jamais vu la lumière et qui remontaient peut-être à l'époque des troglodytes. Je ne pus m'empêcher de reconnaître que c'était pour les érudits prussiens une noble ambition que d'avoir voulu marcher sur les races de notre Institut d'Égypte, dont ils ne pourront du reste que compléter les admirables travaux. Le repas sur la pyramide de Khéops est en effet forcé pour les touristes, comme celui qui se fait d'ordinaire sur le chapiteau de la colonne de Pompée à Alexandrie. J'étais heureux de rencontrer un compagnon instruit et aimable qui me l'eût rappelé. Les petites bédouines avaient conservé assez d'eau dans leurs cruches de terre poreuse pour nous permettre de nous rafraîchir et ensuite de faire des grogs au moyen d'un flacon d'eau-de-vie qu'un des Arabes portait à la suite du Prussien. Cependant, le soleil était devenu trop ardent pour que nous puissions rester longtemps sur la plateforme. L'air pur et vivifiant que l'on respire à cette hauteur nous avait permis quelque temps de ne point trop nous en apercevoir. Il s'agissait de quitter la plateforme et de pénétrer dans la pyramide, dont l'entrée se trouve à un tiers environ de sa hauteur. On nous fit descendre 130 marches par un procédé inverse à celui qui nous les avait fait gravir. Deux des quatre Arabes nous suspendaient par les épaules du haut de chaque assise et nous livraient aux bras étendus de leurs compagnons. Il y a quelque chose d'assez dangereux dans cette descente, et plus d'un voyageur s'y est rompu le crâne ou les membres. Cependant, nous arrivâmes sans accident à l'entrée de la pyramide. C'est une sorte de grotte, aux parois de marbre, à la voûte triangulaire, surmontée d'une large pierre qui constate, au moyen d'une inscription française, l'ancienne arrivée de nos soldats dans ce monument. C'est la carte de visite de l'armée d'Égypte, sculptée sur un bloc de marbre de 16 pieds de largeur. Pendant que je lisais avec respect, l'officier prussien me fit observer une autre légende marquée plus bas en hiéroglyphes, et, chose étrange, tout fraîchement gravée. Il savait le sens de ces hiéroglyphes modernes inscrits d'après le système de la grammaire de Champollion. « Cela signifie, me dit-il, que l'expédition scientifique envoyée par le roi de Prusse et dirigée par Lespius a visité les pyramides de Gizeh et espère résoudre avec le même bonheur les autres difficultés de sa mission. » Nous avions franchi l'entrée de la grotte. Une vingtaine d'Arabes barbus, aux ceintures hérissées de pistolets et de poignards, se dressèrent du sol où ils venaient de faire leur sieste. Un de nos conducteurs, qui semblait diriger les autres, nous dit « Voyez comme ils sont terribles. Regardez leurs pistolets et leurs fusils. Est-ce qu'ils veulent nous voler ? Au contraire, ils sont ici pour vous défendre dans le cas où vous seriez attaqué par les hordes du désert. On disait qu'il n'en existait plus depuis l'administration de Mohamed Ali. Oh, il y en a encore bien des méchants gens là-bas, derrière les montagnes. Cependant, au moyen d'une colonnade, vous obtiendrez des braves que vous voyez là d'être défendus contre toute attaque extérieure. » L'officier prussien fit l'inspection des armes et ne parut pas édifié touchant leur puissance destructive. Il ne s'agissait au fond pour moi que de 5 francs 50 cents, ou d'un thaler et demi pour le prussien. Nous acceptâmes le marché en partageant les frais et en faisant observer que nous n'étions pas dupes de la supposition. « Il arrive souvent, dit le guide, que des tribus, ennemies, font invasion sur ce point, surtout quand elles y soupçonnent la présence de riches étrangers. Il est certain que la chose n'est pas impossible et que ce serait une triste situation que de se voir pris et enfermé dans l'intérieur de la grande pyramide. La colonnade, piastre d'Espagne, donnée aux gardiens, nous assurait du moins qu'en conscience ils ne pourraient nous faire cette trop facile plaisanterie. Mais quelle apparence que ces braves gens y eussent songé même un instant! L'activité de leurs préparatifs, 8 torches allumées en un clin d'œil, l'attention charmante de nous faire précéder de nouveau par les petites filles hydrophores dont j'ai parlé, tout cela sans doute était bien rassurant. Il s'agissait d'abord de courber la tête et le dos et de poser les pieds adroitement sur 2 rainures de marbre qui règnent des 2 côtés de cette descente. Entre les 2 rainures, il y a une sorte d'abîme aussi large que l'écartement des jambes et où il s'agit de ne point tomber. On avance donc pas à pas, jetant les pieds de son mieux à droite et à gauche, soutenu un peu, il est vrai, par les mains des porteurs de torches, et l'on descend ainsi toujours courbé en deux pendant environ 150 pas. À partir de là, le danger de tomber dans l'énorme fissure qu'on se voyait entre les pieds cesse tout à coup et se trouve remplacé par l'inconvénient de passer à plat ventre sous une voûte obstruée, en partie par les sables et les cendres. Les Arabes ne nettoient ce passage que moyennant une autre colonnade, accordée d'ordinaire par les gens riches et corpulents. Quand on a rampé quelque temps sous cette voûte basse, en s'aidant des mains et des genoux, on se relève à l'entrée d'une nouvelle galerie qui n'est guère plus haute que la précédente. Au bout de 200 pas, que l'on fait encore en montant, on trouve une sorte de carrefour dont le centre est un vaste puits profond et sombre autour duquel il faut tourner pour gagner l'escalier qui conduit à la chambre du roi. En arrivant là, les Arabes tirent des coups de pistolet et allument des feux de branchages pour effrayer, à ce qu'ils disent, les chauves-souris et les serpents. La salle où l'on est, voûtée en dos d'âne, a 17 pieds de longueur et 16 de largeur. En revenant de notre exploration, assez peu satisfaisante, nous dûmes nous reposer à l'entrée de la grotte de marbre, et nous nous demandions ce que pouvait signifier cette galerie bizarre que nous venions de remonter, avec ses deux rails de marbre séparés par un abîme, aboutissant plus loin à un carrefour au milieu duquel se trouve le puits mystérieux dont nous n'avions pu voir le fond. L'officier prussien, en consultant ses souvenirs, me soumit une explication assez logique de la destination d'un tel monument. Nul n'est plus fort qu'un Allemand sur les mystères de l'Antiquité. Voici, selon sa version, à quoi servait la galerie basse ornée de rails que nous avions descendue et remontée si péniblement. On asseyait dans un chariot l'homme qui se présentait pour subir les épreuves de l'initiation. Le chariot descendait par la forte inclinaison du chemin. Arrivé au centre de la pyramide, l'initié était reçu par des prêtres inférieurs qui lui montraient le puits en l'engageant à s'y précipiter. Le néophyte hésitait naturellement, ce qui était regardé comme une marque de prudence. Alors, on lui apportait une sorte de casque surmonté d'une lampe allumée. Et muni de cet appareil, il devait descendre avec précaution dans le puits où il rencontrait çà et là des branches de fer sur lesquelles il pouvait poser les pieds. L'initié descendait longtemps, éclairé quelque peu par la lampe qu'il portait sur la tête. Puis, à 100 pieds environ de profondeur, il rencontrait l'entrée d'une galerie fermée par une grille qui s'ouvrait aussitôt devant lui. Trois hommes paraissaient aussitôt, portant des masques de bronze à l'imitation de la face d'Anubis, le dieu chien. Il fallait ne point s'effrayer de leurs menaces et marcher en avant en les jetant à terre. On faisait ensuite une lieue environ et l'on arrivait dans un espace considérable qui produisait l'effet d'une forêt sombre et touffue. Dès que l'on mettait le pied dans l'allée principale, tout s'illuminait à l'instant et produisait l'effet d'un vaste incendie. Mais ce n'était rien que des pièces d'artifice et des substances bitumineuses entrelacées dans des rameaux de fer. Le néophyte devait traverser la forêt au prix de quelques brûlures et y parvenait généralement. Au-delà se trouvait une rivière qu'il fallait traverser à la nage. À peine en avait-il atteint le milieu qu'une immense agitation des eaux, déterminée par le mouvement de deux roues gigantesques, l'arrêtait et le repoussait. Au moment où ses forces allaient s'épuiser, il voyait paraître devant lui une échelle de fer qui semblait devoir le tirer du danger de périr dans l'eau. Ceci était la troisième épreuve. À mesure que l'initié posait un pied sur chaque échelon, celui qu'il venait de quitter se détachait et tombait dans le fleuve. Cette situation pénible se compliquait d'un vent épouvantable qui faisait trembler l'échelle et le patient à la fois. Au moment où il allait perdre toutes ses forces, il devait avoir la présence d'esprit de saisir deux anneaux d'acier qui descendaient vers lui et auxquels il lui fallait rester suspendu par les bras jusqu'à ce qu'il vît s'ouvrir une porte à laquelle il arrivait par un effort violent. C'était la fin des quatre épreuves élémentaires. L'initié arrivait alors dans le temple, tournait autour de la statue d'Isis et se voyait reçu et félicité par les prêtres.